Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes toujours dans le chapitre 12 de Saint Jean, en train d'expliquer les versets 12 à 19 sur le polycopier qui contient les chapitres. Les explications données par les pères pour les chapitres 11 à 15 de Saint Jean. Nous en sommes à la page 13, en haut de la page. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ vient de ressusciter Saint Lazare, le frère de Sainte Marie-Madeleine et Sainte Marthe. Et déjà, les assistants à ce magnifique miracle se divisent en deux. Ceux qui utilisent ce miracle pour se convertir et se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, et ceux qui utilisent ce même miracle pour augmenter leur haine contre notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais presque terminé les explications données par les pères. Je vous relis rapidement les derniers versets que nous étudions, versets 17, 18 et 19 du chapitre 12 de Saint Jean. La foule qui était avec notre Seigneur lorsqu'il avait appelé Lazare du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pour cela aussi que la foule vint au-devant de lui, parce qu'ils avaient appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens dirent donc entre eux, « Voyez-vous que nous ne gagnons rien ? Voilà que tout le monde va après lui. » En gros, la page 13, il y a encore quelques commentaires, notamment de saint Augustin, de saint Jean Chrysostome. Voilà ce que dit saint Augustin. L'évangéliste saint Jean joint au récit de ce fait un oracle prophétique. Pour faire voir que les princes des Juifs, aveuglés par leur méchanceté, ne comprenaient point que les prophéties qu'ils lisaient s'accomplissaient en Jésus-Christ. Celui qui est écrit, selon ce qui est écrit, ne craignez point, fille de Sion, voici votre roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. C'est en référence au verset 15, 12, 13, 14, 15 que je vous lis également. Une foule nombreuse qui était venue pour la fête, ayant appris que Jésus venait à Jérusalem, prit des branches de palmier, alla au-devant de lui, en criant « Hosanna, béni soit celui qui est vint au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, ainsi qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit de Nanès ». Cependant, voyons les choses avec objectivité. Donc, c'est une grande fête à Jérusalem. Les gens de Jérusalem viennent acclamer notre Seigneur Jésus-Christ, le reconnaissent comme roi. Tout le monde coupe des branches d'arbres, les met sur le sol pour faire un chemin d'honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Et crie, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Le problème, c'est que dans quelques jours, les mêmes personnes qui étaient rassemblées là pour acclamer notre Seigneur Jésus-Christ, beaucoup d'entre elles, vont se retrouver devant le palais de Ponce Pilate, en train de lui hurler qu'il soit crucifié. Donc, nous apprenons à ne pas juger trop les choses sur les extérieurs, il faut juger l'intérieur des cœurs. Ceci nous montre à quel point nous sommes faibles. Nous sommes capables de passer de jour au lendemain d'état d'ami de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'état de grâce, à l'état d'ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'état de péché mortel. Bon, certes, il y a beaucoup de, heureusement, beaucoup de certains catholiques au moins, qui, un état de péché mortel, n'ont aucune idée en tête, c'est de retrouver l'état de grâce et donc de faire une bonne confession. Mais malheureusement, beaucoup de, aussi de gens qui sont dans le péché mortel jusqu'au cou ne cherchent absolument pas à s'en sortir. On voit très bien aujourd'hui à un tel point que même dans le monde moderne, on peut dire que beaucoup de gens non seulement vivent dans le péché mortel, mais essaient de justifier leur comportement, leur façon d'agir, et prétendent que c'est pas un péché, parce que d'abord tout le monde le fait. Et autre commentaire des pères, c'est dans le peuple juif que se trouvait la fille de Sion. Verset 15, ne crains point, fille de Sion. La ville de Jérusalem est elle-même cette Sion à qui il est dit ne craignez point. Donc la ville, la fille de Sion dont parle ici le prophète, c'est la ville de Jérusalem. Reconnaissez celui qui est l'objet de vos louanges et ne soyez point effrayés lorsque vous le verrez souffrir, car le sang qui est répandu doit effacer vos crimes et racheter votre vie, à condition évidemment que qu'on ouvre les yeux sur ces prophéties. Donc notre Seigneur Jésus-Christ prouve sa divinité de deux façons. D'abord en remplissant toutes les prophéties de l'Ancien Testament, les unes après les autres, d'autre part en faisant des miracles. On voit très bien ici que même devant ces miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, même devant l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, mais hélas, beaucoup de Juifs refusent d'ouvrir leurs yeux et de se convertir. C'est la même chose pour nous. J'ai déjà expliqué plusieurs fois que même si aujourd'hui un grand thaumaturge faisait des miracles extraordinaires au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la plupart de nos contemporains sans doute ne se convertiraient pas parce qu'ils sont tellement enfoncés dans le péché, les racines du péché sont tellement profondes dans les âmes que ces âmes deviennent littéralement inconvertissables, bien que notre Seigneur Jésus-Christ puisse faire des miracles extraordinaires de conversion. C'est le cas par exemple, de Saint Paul. Mais ce sont quand même des cas rares. Saint Jean Chrysostome rajoute, comme les rois des Juifs avaient été injustes pour la plupart et avaient jeté leur peuple dans les guets des guerres sans fin, le prophète dit ici, ce roi ne leur est pas semblable. Il est plein de douceur et de mansuétude, comme le prouve l'âne qu'il choisit pour monture, car il n'entre pas à la tête d'une armée, il entre assis sur un ânon. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, est tout en humilité, et même dans son arrivée, il ne cherche pas du tout à montrer sa gloire. On peut même dire que notre Seigneur Jésus-Christ, pardon, va cacher sa divinité. Elle apparaît par les miracles, mais elle est cachée. On dirait que notre Seigneur Jésus-Christ cache sa divinité sous la, sous non pas l'apparence, sous son humanité, alors qu'il est vraiment Dieu et vraiment homme à la fois. La dernière note historique que j'ai trouvée chez les pères, les rameaux eurent lieu 5 jours avant la Passion, le 10e jour du mois de Nissan, jour où l'agneau, le Christ, devait être tué. Donc on va maintenant lentement s'acheminer vers la Passion. Notre Seigneur Jésus-Christ, pourtant on n'est qu'à la moitié de l'évangile selon Saint Jean. Vous voyez, dans Saint Jean, la Passion est beaucoup plus centrale que dans les autres évangiles. Il y aura 2 chapitres complet sur la passion, le chapitre 18 et 19, mais avant, entre justement cette partie que nous méditons et la passion, il va y avoir une série de chapitres, chapitres 13 à 17, où notre Seigneur Jésus-Christ va s'épancher avec ses disciples avant la passion, surtout après que Judas ait quitté le groupe des apôtres pour aller livrer son maître. Donc nous avançons toujours à la page 13, versets 20 à 26. Or, il y avait là quelques gentils de ceux qui étaient montés pour adorer au jour de la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et le priaient en disant, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Philippe vint et le dit à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, Si le grain de froment qui tombe à terre ne meurt pas, il demeure seul, merci, même s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conserve pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, mon serviteur sera aussi. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Voyons les commentaires des pères, donc en bas de la page 13. C'est ce que le roi prophète avait prédit. Soyez exaltés, ô Dieu, au-dessus des cieux, que votre gloire éclate par toute la terre. Mais cette haute élévation dans la gloire a dû être précédée par les humiliations de la passion. Ainsi le Seigneur ajoute, en vérité, je vous le dis, si le grain de froment qui tombe dans la terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Ce grain de froment, c'est lui que l'incrédulité des Juifs devait faire mourir et qui devait se multiplier par la foi des peuples. Donc on a verset 24. Je vous l'ai dit, en vérité, si le grain de froment qui tombe sur terre ne meurt pas, il demeure seul. Verset 25. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc ici, notre Seigneur va comparer son action, au début de la passion qui arrive, avec le grain de blé qui doit mourir en terre pour pouvoir regermer. Donc la germination provoquée par la nature, pour un grain qui est dans le sol, qui va pourrir dans le sol, donc mourir littéralement dans le sol, avant de ressusciter en quelque sorte par une nouvelle plantule au début du printemps, et qui va sortir de terre pour pouvoir grandir et donner de nouveau du fruit et continuer la génération suivante de ces plantes. Eh bien, c'est un symbole, évidemment, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit être précédée par sa passion. Donc, la résurrection est à la germination, ce que la passion est à la mort du grain en terre. Donc, si le grain ne meurt, la résurrection ne peut pas suivre. Donc, si la passion n'avait pas précédé la résurrection n'aurait pas eu lieu. Évidemment, puisque si notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas été tué par les Juifs, eh bien, il n'y aurait pas besoin qu'il ressuscite, qu'il ressuscita d'entre les morts. Donc, on voit très bien ici que la passion doit donc amener à la résurrection. Le sommet de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est sa résurrection, mais cette résurrection est précédée par la passion. C'est la même chose pour nous. On ne va pas au ciel en carrosse, on ne va pas au ciel sur un tapis roulant. On va au ciel après avoir purifié son âme par toute une série d'épreuves, d'épreuves dans la vie de tous les jours, et Dieu sait si elles ne manquent pas, tout par les temps qui courent. Eh bien, ces épreuves sont pour nous des moyens de purification. Donc, cette mort, si le grain de froment qui tombe en terre ne meurt pas, cette mort représente non seulement la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, mais doit représenter aussi notre propre passion, dans le sens qu'elle est un symbole des pénitences, de la voie purgative par laquelle nous devons passer avant d'arriver en voie illuminative et en voie unitive. Pas question d'aller au ciel, justement, sans s'être purifié. C'est pour cela que quelqu'un qui meurt en état de grâce, mais qui n'a pas eu le temps de se purifier suffisamment pour ses péchés passés, même pardonnés, doit passer par le purgatoire. Le purgatoire est aussi un moyen de purification, n'oublions pas que il y a trois parties dans l'Église. Il y a bien sûr l'Église du ciel, qu'on appelle l'Église triomphante, mais l'Église du ciel est aussi précédée par l'Église d'ici-bas, l'Église militante, et l'Église du purgatoire, l'Église souffrante. Saint Bède le Vénérable, il est en effet ce grain qui a été semé de la semence des patriarches dans le champ du monde, c'est-à-dire qui s'est incarné pour mourir et ressusciter en se multipliant au centuple. Lui seul est mort, mais il est ressuscité avec un grand nombre d'âmes. Donc notre Seigneur va ressusciter avec la multiplication des âmes qui se convertissent. Donc même que notre Seigneur Jésus-Christ passe par les affres de la mort, de la passion, avant de ressusciter glorieusement, de monter au ciel, et bien de la même façon, nous aussi nous devons passer par les affres de la pénitence, la mortification, de l'esprit de purification, l'esprit de la vie purgative, justement, avant de pouvoir prétendre associer notre vie à celle de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Sans pénitence, on ne peut pas monter au ciel, c'est impossible. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous, nous dit notre Seigneur. Car les paroles du Sauveur ne portaient pas toujours la persuasion dans les cœurs, il a recours à cette comparaison parce que le froment est une des graines qui produit le plus de fruits lorsqu'elle est morte. Or, si ce phénomène se manifeste dans les semences à plus forte raison se produira-t-il en moi, dit notre Seigneur. Donc là, l'abandon de sa volonté propre est une condition sine qua non pour pouvoir s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ et monter au ciel. On ne peut pas monter au ciel tant qu'on garde sa volonté propre. C'est pour cela que la vie religieuse dans les monastères commence d'abord toujours par une vie purgative assez forte, toute une série d'humiliations par lesquelles le jeune moine doit passer avant de pouvoir vraiment prétendre devenir un moine aguerri. Il va passer d'abord toute une série de tentations de purification, qu'on appelle souvent des tentations d'épreuves. Notre Seigneur Jésus-Christ permet que ses amis passent par des épreuves parfois très fortes. Rappelez-vous la phrase de sainte Thérèse d'Avila, « Mon Dieu, quand je vois la façon dont vous traitez vos amis, c'est pas étonnant que vous en ayez si peu. » C'est exactement ça. Donc il ne faut pas paniquer lorsque nous avons des épreuves dans notre corps, des épreuves physiques, mais aussi des épreuves psychologiques qui sont certainement les plus pénibles, des épreuves de découragement, des désolations. Et se rappeler la règle fondamentale donnée par Saint Ignace dans ses exercices, en période de désolation, on attend. Pas question de se laisser aller au découragement, même si les choses sont difficiles. Passons à la page 14, on avance dans ce chapitre 12. Notre Seigneur devait, dans la suite, envoyer ses disciples vers les gentils, et il les voit déjà venir d'eux-mêmes avec ardeur pour embrasser la foi. Il annonce donc que le moment est venu pour lui de souffrir le supplice de la croix. Il manque un point. À la base d'une virgule. Car il n'envoya point ses apôtres vers les nations avant que les Juifs ne se fussent brisés eux-mêmes contre la pierre avant qu'ils l'eussent crucifié. Dans cette pierre contre laquelle les Juifs vont se briser, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le roc. N'oubliez pas qu'il a expressément dit à Saint-Pierre, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais cette pierre, c'est aussi le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ va bâtir son église par le sang de sa passion. Donc supprimer la passion, va vous supprimer la résurrection, la rédemption. Et comme il prévoyait, encore une faute, je m'excuse, il y a pas mal de fautes dans ce polycopier qu'il faut que je corrige. Comme il prévoyait que sa mort devait jeter ses disciples dans une profonde tristesse, il expose pleinement la doctrine de la croix et semble dire à ses disciples, « Il ne suffit pas que vous supportiez ma mort avec patience, mais si vous ne mourrez vous-même, vous n'aurez aucun fruit à espérer de ma mort. Celui qui aime son âme la perdra, celui dont... » Donc, dans le membre de phrase précédent, celui qui aime, il faut sous-entendre en ce monde. Donc, c'est le verset 25. Il demeure seul. Donc, en vérité, je vous le dis, si le grain de froment qui tombe en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde la conserve dans la vie éternelle. D'après certains pères de l'Église, il faut ajouter, donc il faut comprendre, celui qui aime. Attendez. Je retrouve mon texte là. Celui qui aime sa vie, sous-entendu, dans ce monde. Donc, celui qui aime sa vie ici-bas la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conserve pour la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui veut faire passer sa volonté propre ici-bas sur la terre va perdre sa vie, ça va perdre son âme parce qu'il va finir par mourir dans sa volonté propre, c'est-à-dire mourir dans le péché. Au contraire, celui qui est sa vie dans ce monde, c'est-à-dire celui qui veut faire passer la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ pour détruire sa propre volonté personnelle, eh bien il va la conserver pour la vie éternelle. Il est impossible de rester en état de grâce si je veux suivre ma volonté propre à longueur de journée. Qu'est-ce que c'est qu'un catholique? Un catholique, c'est quelqu'un qui accepte de placer la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ dans son âme à la place de sa volonté propre. Toute la vie religieuse, c'est ça. La vie religieuse, c'est un combat entre deux volontés, la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ et la volonté propre de l'individu. Et donc, ce combat va amener littéralement à ouvrir la porte, la fenêtre de notre âme, mettre notre volonté propre dehors, la jeter dehors et la remplacer par la volonté de notre Seigneur. Et à ce moment-là, on trouve la paix. Tant qu'on suit sa volonté propre, on suit la volonté d'un fou, on suit la volonté d'une personne qui n'est pas stable du tout, l'homme changeant d'idée toutes les 5 minutes, quelqu'un qui veut suivre sa volonté propre ne trouvera jamais la paix intérieure. Au contraire, si je mets la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ est stable. Notre Seigneur ne change pas, puisqu'il est la voie, la vérité et la vie. Étant l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie, notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans une âme. Une fois que l'âme a accepté complètement de se placer sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, cette âme va trouver une grande paix. C'est pour ça que la vie purgative, la vie des épreuves du début de la vie spirituelle, va mener à la vie illuminative pour recevoir les lumières du Saint-Esprit, et enfin arriver à la vie unitive qui est le mariage spirituel. Le mariage spirituel, c'est l'acceptation totale de la volonté divine dans notre âme. Il n'y a plus d'obstacle, il n'y a plus d'obstacle de la volonté propre. Donc l'homme ouvre son cœur tout grand à la grâce du bon Dieu, qui peut vraiment faire ce qu'il veut à ce moment-là dans notre âme. Saint Jean Chrysostome, en mot de la page 14, voilà ce que dit ce grand saint. Aimer son âme en ce monde, c'est satisfaire ses désirs criminels, ce que je viens d'expliquer. Haïr son âme, c'est résister à ses désirs coupables. Aimer son âme en ce monde, c'est satisfaire ses désirs criminels en suivant sa volonté propre. Haïr son âme, c'est résister à ses désirs coupables en suivant la volonté de notre Seigneur. Remarquez, dit Saint Jean Chrysostome, que notre Seigneur ne dit pas celui qui ne se rend pas au désir de son âme, mais celui qui la hait. Lorsque nous avons la haine contre quelqu'un, nous ne pouvons entendre sa voix. Sa présence nous est désagréable. Ainsi, lorsque notre âme nous suggère des pensées contraires à la loi de Dieu, nous devons la repousser avec horreur. Donc il y a un combat. Il y a un combat terrible dans l'âme de chacun d'entre nous, entre deux volontés, la volonté de notre Seigneur et la volonté propre. Je ne fais pas ce que je voudrais faire et je fais ce que je ne voudrais pas faire, dit saint Paul. Comme cette obligation de haïr son âme pouvait paraître bien dure, le Seigneur adoucit cette dure obligation en disant « en ce monde », parole qui annonce la brièveté de l'épreuve. Parce que nous ne sommes en ce monde que des pèlerins. Notre pèlerinage sur la terre n'est pas éternel. On fait ici que passer. Alors, donc, il ne nous commande pas de haïr notre âme pour toujours. Il nous fait savoir quel sera le prix de ce sacrifice. Il la conservera pour la vie éternelle. Mais c'est ça qui est terrible dans le monde moderne, c'est que les gens passent leur temps à courir après l'argent, à courir après les honneurs, à courir après l'orgueil. Et finalement, qu'est-ce qui va rester de tout ça? Plus rien, le trou du cimetière. Et tout ça pour rien. Tandis que nous, catholiques, nous savons que nous allons devoir souffrir pendant le passage sur la terre, mais qui va durer qu'un certain temps, un temps de 80, 90 ans, grand maximum, parfois 100 ans, guère plus. Eh bien, ce temps de passage nous prépare. S'il est bien utilisé, ce passage dans le temps ici-bas sur la terre va nous ouvrir les portes de l'éternité. C'est pour ça qu'il faut vraiment accepter avec amour pour le bon Dieu toutes les petites épreuves que nous avons, que le bon Dieu permet. On a notre volonté propre, on a des tas de choses que nous voulons faire dans la vie. Et puis le bon Dieu nous fait comprendre par des petites choses que ce n'est pas sa volonté à lui. La meilleure façon de suivre la volonté du bon Dieu, c'est d'abord, bien sûr, de suivre les commandements, ce qu'on appelle la volonté manifestée, et c'est aussi de suivre la volonté de bon plaisir. La volonté de bon plaisir, ça consiste tout simplement à accepter les manifestations extérieures de la volonté du bon Dieu. On prévoit des choses, et puis il y a quelque chose qui nous tombe dessus, et on ne peut pas faire ce qu'on a prévu. C'est la volonté de bon plaisir. Je vois pour moi, c'est voilà pour moi comme tout le monde, hein, pas croire que les prêtres sont dispensés de ces vérités. C'est la même chose pour moi, prêtre, eh bien, Bon, je me suis abîmé le genou, ben, je peux plus courir, je peux plus sauter, je peux plus faire tout ce que je voulais faire avant, je peux plus faire de sport, pratiquement plus. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Il y a deux façons de se réagir. Soit je me révolte, et c'est pas la révolte qui va changer mes difficultés avec mon genou, ben, j'aurai toujours la difficulté je pourrais pas courir, pas descendre un escalier, ou très difficilement, ni le monter, que ça me plaise ou non. Donc, même si je me révoltais contre mal de genou, mon mal de genou, c'est pas ça qui changerait la situation. Au contraire. Si au contraire, j'accepte cette volonté manifestée par le bon Dieu, dans les circonstances, eh bien non seulement je ne perds plus mon temps, mais j'utilise cette douleur de genou comme un moyen de sanctification. Et c'est valable pour tout le monde. Et donc ça n'empêche pas d'essayer de se soigner. Vous avez une maladie qui se présente, qui pointe au bout de son nez dans votre vie de tous les jours, vous avez le droit d'essayer de vous soigner. Vous avez le droit d'aller voir un médecin pour essayer de vous soigner, de trouver les moyens médicaux, les moyens chirurgicaux pour guérir votre maladie. Mais si rien ne peut être fait, eh bien, il ne faut pas se décourager pour autant. Vous dire, bon ben voilà, mon Dieu, j'aurais bien aimé vivre plus longtemps, mais il semble que vous ayez décidé de raccourcir ma vie, où j'avais décidé de faire des tas de choses, mais je ne peux pas faire tout ce que j'avais décidé. Que votre volonté soit faite. C'est ce qu'on dit tous les jours au Notre Père, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre volonté soit faite, c'est pas simplement quand la volonté du bon Dieu correspond à la mienne. C'est facile de suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand la volonté de nos bons plaisirs ne permet qu'une seule chose, c'est que nous fassions que ce que nous voulons toute la journée. Oui, mais c'est pas ça. Il faut accepter la volonté du bon Dieu, même quand elle ne correspond pas à notre volonté. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, même si votre volonté ne correspond pas à la mienne, même si je ne l'aime pas, même si je ne suis pas d'accord avec votre volonté. Le bon Dieu ne demande pas notre accord, il demande d'accepter la croix. C'est pas pareil. Alors continuons. Aimer son âme en ce monde. Est-ce que j'en suis? Non, j'en suis un peu plus loin. J'en suis au texte de Théophylacte. Comme cette obligation de haïr son âme pouvait paraître bien dure, le Sauveur adoucit cette dure obligation en rajoutant en ce monde parole qui annonce la brièveté de l'épreuve. Pourquoi? Parce que nous sommes des pèlerins en ce monde. Nous sommes des pèlerins de passage. Analogiquement, donc c'est le sens analogique, je rappelle que c'est le sens qui nous explique ce qui va se passer à la fin des temps. Saint Bède le Vénérable. Jésus naquit de la semence des patriarches dans le champ du monde pour s'incarner. Il mourut seul, mais ressuscita avec beaucoup. Donc la passion à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ amène à la résurrection, puis à l'ascension. Et l'ascension amène à la Pentecôte. Et donc il y a les souffrances, la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, qui rouvre à ce moment-là le ciel aux pécheurs repentants, et il envoie à ce moment-là ceux qui restent ici-bas sur le monde, les lumières du Saint-Esprit par la fête de la Pentecôte, afin que nous puissions nous aussi monter au ciel. Saint Bernard nous dit qu'il faut que le grain meure, que la moisson des gentils sorte de terre. Il fallait donc que le Christ souffrit, qu'il ressuscita, que la repentance et la rémission des péchés soient prêchées en son nom, non seulement en Judée, mais dans toutes les nations, afin que des millions d'hommes soient appelés chrétiens. Votre nom est comme un baume versé sur nous. Donc, c'est le grain ne meurt, ça représente donc toute la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, mais également la passion de l'Église. Passion de l'Église. Saint Pélisse disait, on a les chefs politiques qu'on mérite. C'est très vrai. Et peut-être bien que nous avons besoin de passer par ces épreuves terribles par lesquelles les catholiques sont en train de passer aujourd'hui, en 2022, et qui ne vont que s'augmenter avec l'arrivée de les grandes persécutions. On sent très bien que ces persécutions psychologiques et peut-être physiques, je ne sais pas, vont devenir de plus en plus fortes. Nous avons devant nous des membres de notre gouvernement en France, hélas, qui n'ont qu'une seule idée en tête, c'est détruire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. On sent très bien chez Macron que c'est une idée fixe, détruire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ par l'implantation, l'obligation d'un laïcisme total en France. Le laïcisme, c'est ça, le refus de la volonté de Dieu, le refus de se soumettre à Dieu, le refus de toute influence surnaturelle de Dieu sur notre âme. Un texte encore de Saint Jean Chrysostome. Quand le Christ vit que ses apôtres s'attristaient à cause de sa mort, il éleva leurs pensées vers les choses d'en haut. Si je ne meurs pas pour vous, vous ne pourrez profiter des mérites de ma passion. Car c'est là qu'est la racine et la fondation de toutes les vertus. Une très belle phrase. Donc la passion est la racine et la fondation de toutes les vertus. C'est-à-dire qu'il faut accepter de se mettre au pied de la croix pour pouvoir porter cette croix et se sanctifier. On ne va pas au ciel sans porter sa croix. C'est absolument impossible. Si je ne porte pas la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, ben je ne peux pas me mettre à sa suite. C'est absolument impossible. Hein. Donc toute personne qui aime notre Seigneur Jésus-Christ doit commencer par se renoncer, porter sa croix et suivre notre Seigneur. Celui qui veut apprendre davantage et se perfectionner à l'école du Christ devrait donc constamment ruminer sur ses paroles, les soupeser, les imprimer dans sa volonté, les mettre en action, adapter et confirmer sa vie. Il deviendra alors un véritable disciple du Christ. Et en récompense pour cette vie brève ici-bas qui ne compte pour rien, il obtiendra les joies de la vie éternelle. Mais encore une fois, on ne peut pas prétendre aux joies de la vie éternelle sans passer par la purification des sens ici-bas. Il y a des textes magnifiques dans Saint Jean de la Croix qui expliquent très bien tout ça. C'est qu'il explique que lorsque on passe de la vie purgative à la vie illuminative, eh bien, ce passage, Saint Jean de la Croix l'appelle la nuit des sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ va nous enlever toute consolation sensible. Toutes les consolations sensibles vont disparaître. C'est un passage, et il compare ça à une nuit, parce qu'on est dans l'obscurité totale, on ne voit plus rien, on ne faut pas se décourager dans ces moments très difficiles. Passage de la vie purgative à la vie unitive, par l'abandon total de notre volonté propre, on est dans un tunnel. Rappelez-vous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est passée par là, qui était dans un tunnel, elle avait l'impression qu'elle n'allait jamais en sortir, elle voyait au fond du tunnel un petit point lumineux, elle savait qu'il y avait une sortie. Quand est-ce qu'elle atteindrait la sortie? Elle ne savait pas. Vous voyez, donc c'est la même chose pour nous. Et donc c'est la première étape, c'est l'étape de passage de la vie purgative à la vie illuminative par la nuit des sens. Et une fois qu'on a une vie illuminative, on n'est pas encore arrivé au bout, parce qu'il va y avoir un deuxième passage au moment où on saute de la vie illuminative à la vie unitive. Là, c'est la nuit de l'esprit qui est encore pire. La nuit de l'esprit, c'est-à-dire que Dieu, après nous avoir purifiés en nous ôtant les consolations sensibles, va nous ôter même les consolations spirituelles. La nuit d'esprit est donc encore pire que la nuit des sens. Parce que dans la nuit des sens, on perd les consolations sensibles, mais on garde les consolations d'ordre spirituel. On a encore la foi. Alors, dans la nuit de l'esprit, le passage de la vie illuminative à la vie unitive, on a l'impression d'avoir perdu la foi. Donc on est complètement, on a l'impression d'être non seulement abandonné par les hommes, mais également d'être abandonné par Dieu lui-même. Donc celui qui veut apprendre davantage et se perfectionner à l'école du Christ devrait constamment ruminer sur ses paroles, les soupeser, les imprimer dans sa volonté, les mettre en action, adapter et confirmer sa vie, et deviendra alors un véritable disciple du Christ, une récompense pour cette vie brève ici-bas, qui ne compte pour rien, il obtiendra les joies de la vie éternelle. Donc nous sommes des êtres d'éternité, il faut y penser. Rappelez-vous que c'est comme ça que Saint Ignace de Loyola convertit Saint François Xavier, hein, qui faisait de brillantes études de droit à Paris. Et puis Saint Ignace de Loyola, qui avait deviné l'extraordinaire valeur de Saint Jean, de Saint François Xavier, lui a dit: bon ben, c'est ce que vous allez faire dans votre vie. Ben voilà, je vais terminer mes études, devenir docteur en droit. Très bien. Et après? Ben après. Sans doute fonder une famille, me marier, fonder une famille, très bien. Et après, ben après, je vais jouir un petit peu de mon cabinet d'avocat, de ma fonction d'avocat, trouver une bonne un poste avec une bonne prébende dans un service de l'État pour pouvoir gagner ma vie, protéger ma famille, très bien. Et après, ben après, je commence à devenir un peu vu, un peu décati, très bien. Et après. Après, je vais mourir. Eh bien oui, vous allez mourir. Et vous allez être jugé. Donc pensez à ça, l'homme est créé pour mourir. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. L'homme n'est pas créé pour remplir son escarcelle, son ventre, ou son portefeuille, ou son compte bancaire. L'homme est créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Donc l'homme est un être d'éternité, il est créé pour aller au ciel. Combien de gens y pensent aujourd'hui à ces choses-là, ces choses essentielles? Donc nous avançons à la page 14, en bas de la page. Nous passons au verset 27 à 33. Dans les pages, là. Voilà, maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivrez-moi de cette heure. Et c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Père, glorifiez votre nom. Alors vint une voix du ciel. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. La foule qui était présente et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Jésus répondit et dit, ce n'est pas pour moi que cette voix est venue, mais c'est pour vous. C'est maintenant le jugement du monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Il disait cela pour marquer de quelle mort il devait mourir. Il y a là, dans ce passage, donc un des versets les plus importants de l'Évangile. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Donc là, c'est une annonce de sa passion. Notre Seigneur Jésus-Christ va être élevé de terre au moment de la crucifixion. Il va être crucifié au-dessus du sol, pendu à la croix, écrabouillé entre les clous et le bois de la croix. Et quand il sera élevé de la terre, tous ceux qui regarderont vers lui seront attirés par lui. Il attirera à ce moment-là tout à lui. C'est une allusion aussi au serpent d'airain dans l'Ancien Testament, au moment où le peuple juif se révoltait constamment contre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus avait fait, notre Seigneur avait permis que des petits serpents brûlants sortent des sables, piquent les Hébreux, ils mouraient comme des mouches. Donc ils ont complètement paniqué, ils sont précipités vers Moïse pour demander pardon de leur prévarication, de leur révolte. Et Dieu a dit à Moïse, prends un serpent d'airain, plante-le sur un poteau au milieu du camp, et tous ceux qui regarderont avec foi ce serpent d'airain seront guéris. C'est exactement ce qui s'est passé. Tous ceux qui ont regardé, tourné vers le regard vers la croix étaient guéris. Et les petits serpents qui piquaient et faisaient tuer tout le peuple hébreu ont disparu. Et bien ce serpent d'airain placé au centre du camp et qui sauve tous ceux qui acceptent de le regarder représente évidemment la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons un petit peu les textes maintenant des pères de l'Église à la page 15. J'ai trouvé pas mal de choses sur ces quelques versets. Aux approches de sa croix, au de la page 15, aux approches de sa croix, notre Seigneur fait paraître les sentiments qui sont propres à notre humanité, une nature qui a horreur de la mort et qui s'attache à la vie présente. Et il prouve ainsi qu'il n'était point étranger aux passions de notre humanité, car ce n'est pas plus un crime de désirer conserver la vie présente que ce n'est un crime d'éprouver les besoins de la faim. Notre Seigneur Jésus-Christ est un homme, attention, il est parfaitement homme. Donc en tant qu'homme, il craint la mort. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas craint la mort, eh bien il n'aurait pas été vraiment homme. Comme il est vraiment homme, il prend sur lui tout ce que les hommes ont, sauf le péché. Donc l'homme a besoin de manger, l'homme a besoin de dormir. Notre Seigneur Jésus-Christ mangeait et dormait. L'homme a un désir naturel, surtout a une peur très forte de la mort, de la souffrance. Et bien notre Seigneur Jésus-Christ a eu cette peur de la mort. On le voit très bien au moment de la passion, on va voir ça plus tard. Mon âme est triste à mourir. Et ici, il y a déjà une allusion à ça, au verset 27. Mon âme est troublée. Ce trouble que notre Seigneur Jésus-Christ va ressentir, mais c'est le trouble de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ qui commence à vouloir se révolter contre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur va l'expliciter plusieurs fois dans l'Évangile. Seigneur, s'il est possible que ce calice de ma passion passe loin de moi, cependant, non pas ma volonté, mais que la vôtre soit faite. Donc notre Seigneur Jésus-Christ étant vraiment homme, Eh bien, évidemment, a peur de la mort, une espèce de peur naturelle de la mort, une peur naturelle de la souffrance. Notre Seigneur Jésus qui a accepté justement de devenir comme nous, pour nous, afin de nous préserver du péché. Le corps de Jésus-Christ était pur de tout péché, mais il n'était pas affranchi des infirmités de notre nature. C'était l'effet, la suite, non de sa divinité, mais de son incarnation. Par son incarnation, il est vraiment homme. Par sa divinité, il est vraiment Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ va non seulement accepter toutes les souffrances des hommes, mais va se soumettre constamment à la volonté de son Père. Il le dira plusieurs fois, non pas que ma volonté soit faite, que votre volonté, ô Père, soit faite. Notre Seigneur, non seulement n'a pas évité les souffrances, il aurait pu nous sauver simplement par sa divinité, sans être obligé d'aller accepter la passion, la croix. Et notre Seigneur Jésus-Christ a accepté cette passion parce que c'était la volonté de son Père. On va pas aussi, encore une fois, sans souffrir, c'est absolument impossible. Devant la souffrance, il y a deux solutions. Soit je me révolte, soit j'accepte la souffrance, et j'utilise la souffrance comme un moyen extraordinaire de changer de vie. Et ça, il faut pas oublier ça lorsqu'on est exposé à des fortes souffrances, par exemple, parce que la maladie vient frapper à la porte de mon âme. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas en me révoltant que je vais changer quelque chose. Oui. Le démon était dans leur cœur, il est chassé dehors. Quand ils renoncent au démon en embrassant la foi, mais qu'est-ce que le démon n'a pas. Qu'est-ce donc que le démon n'a pas été chassé du cœur des justes de l'ancienne loi? Malheureusement, Dieu respecte notre volonté propre et celui qui veut se donner au démon est hélas libre de le faire. Encore une fois, la foi ne va pas supprimer les épreuves. On passe par ces épreuves tous. Pourquoi donc le Seigneur, le Sauveur, dit-il ici, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors? C'est-à-dire que ce qui ne s'est fait qu'en faveur d'un très petit nombre doit se réaliser pour une multitude innombrable de peuples. Donc il y a ce combat entre le monde, l'esprit du monde et l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'esprit du monde, c'est l'esprit du prince de ce monde, celui qui mène le monde, à savoir le démon. Au contraire, le passage de notre Seigneur Jésus-Christ nous fait passer sous l'autorité d'un autre prince, ce prince qui est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais dira-t-on encore de ce que le démon a été chassé dehors? S'ensuit-il que tous les fidèles soient à l'abri de ses tentations? Tout au contraire, il ne cesse de tenter des hommes. Mais il y a une grande différence entre attaquer extérieurement et régner dans l'intérieur de l'âme. C'est pas parce que les gens peuvent avoir des tentations terribles que ça veut dire que le démon est rentré dans leur âme. Le démon fait du bruit, il est comme un chien qui aboie, mais il est tenu par une laisse, il est tenu par une chaîne. Oui, et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de bruit à l'extérieur de la maison que ça veut dire que j'ai un état de péché mortel. C'est pas parce que j'ai des tentations et des épreuves terribles que ça veut dire que je suis en état de péché mortel. Les saints sont passés par là, ils vivent en état de grâce, bien sûr, et ils sont passés par des épreuves terribles. Donc ne nous décourageons pas quand nous sommes exposés aux tentations. Cette exposition aux tentations permet justement de se purifier ici-bas de tous nos problèmes, de toutes les conséquences de nos péchés, et donc de raccourcir considérablement le temps de purgatoire. Donc le coup de tonnerre. Alors, c'est au verset 28. Une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Et comme une espèce de coup de tonnerre, ils ont eu cette voix, Dieu le Père qui parle à propos de son Fils, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était présente et qui avait entendu disait, c'est un coup de tonnerre. D'autres disaient que c'est un ange qui lui a parlé. Donc, notre Seigneur avait déjà eu ces paroles de Dieu le Père qui avait retenti près de lui au moment par exemple de du Tabor, au moment de la transfiguration au sommet du Tabor. Notre Seigneur a parlé au moment du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ également, cette voix du ciel qui retentit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le en qui j'ai mis ma confiance, écoutez-le. C'est une phrase un peu différente. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc le coup de tonnerre signifie que Jésus était le Fils de Dieu, qui tonnes depuis le ciel. Et donc qu'il était lui-même Dieu. Car la voix qui retentit nous fait revenir à la source et nous conduit à le vénérer et à l'annoncer aux gentils. Ce coup de tonnerre, si vous voulez, c'est un peu une manifestation de l'esprit apostolique, de même que coup de tonnerre est entendu sur une distance très très grande sur la terre, et bien de même la parole, la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est comme un véritable coup de tonnerre, doit être entendu au loin, pardon, et va être diffusé au loin par tous les apôtres et tous ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que Jésus en tant qu'homme ne tonnait pas lui-même avec sa bouche et lançait des éclairs avec son cœur pour pousser à la pénitence les cœurs durs et réchauffer les cœurs froids avec l'amour, mais qu'il demandait aux apôtres et à ceux qui le suivaient de tonner et d'illuminer. Notre Seigneur Jésus-Christ va envoyer ses apôtres, aller baptiser, prêcher. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ce coup de tonnerre auquel il fait allusion, verset 29, eh bien ce coup de tonnerre représente en quelque sorte l'envoi, l'aspect missionnaire de l'Église qui envoie ses disciples dans le monde entier pour prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette voix qui tonne du ciel nous fait revenir à la source, nous conduit à le vénérer, à l'annoncer aux gentils. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Et puisque moi, Dieu le Père, j'ai glorifié mon Fils, Dieu le Fils, vous devez maintenant aller prêcher mon Fils, la doctrine de mon divin Fils de par le monde. Donc, le coup de tonnerre signifiait bien que Jésus était le Fils de Dieu. Donc, c'est encore une manifestation de plus de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore des foutres, je m'excuse, beaucoup de foutres, la poutre, il y en a. Je corrige ces fautes, je vous l'ai déjà dit, je corrige ces fautes au fur et à mesure que je donne les cours, que j'enregistre ces cours, et lorsque j'ai fini un fichier, je corrige bien sûr toutes les fautes sur le fichier, et je remets un nouveau fichier une fois qu'il a été corrigé. Et donc vous n'avez pas le nouveau fichier corrigé en PDF, avant que j'ai terminé le fichier, d'expliquer le fichier en cours audio. Une fois que j'ai terminé les audios du fichier, je change le fichier et je mets un nouveau fichier corrigé. J'espère qu'après ça, il n'y a plus trop de fautes. N'hésitez pas, pour ceux qui lisent attentivement ce polycopier, si vous trouvez encore des fautes qui n'ont pas été corrigées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour dire, vous avez telle page, j'ai une faute, et vous avez oublié telle erreur. Alors avançons. Donc, notre Seigneur nous pousse à la pénitence, pousse les cœurs durs et réchauffe les cœurs froids avec l'amour de Dieu qu'il a pour nous. Mais il demandait en même temps aux apôtres et à ceux qui les suivaient de tonner, d'illuminer par leur vie personnelle. Notre Seigneur Jésus-Christ va envoyer donc ses apôtres sauver le monde, justement par sa prédication. Ce tonnerre qui est retenti au loin, je vous l'ai dit, est le symbole de la prédication de l'esprit apostolique de l'Église. Le Christ explique donc ce qu'il veut faire. Donc, ici, il va, voilà ce que disent les pères, il va libérer le monde, chasser le démon, priver le démon de son pouvoir et purger les cœurs des hommes des démons et les renvoyer en enfer. Ouais, expliquons un petit peu ça. Donc le Christ explique donc ce qu'il veut faire. Première chose, libérer le monde, c'est-à-dire les gentils qui croient en lui, par sa mort, du péché, du démon. Pourquoi ? Parce que les hommes ici-bas sur la terre sont esclaves du démon, nous appartenons au démon. Et c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Même quand je baptise un petit bébé, j'explique ça aux parents, attention, avant, je t'aime, le bébé qui est tout souriant, tout mignon, tout petit ange là, dans son berceau, ben, ce petit bébé appartient au démon. Le démon est propriétaire de ce bébé. C'est pour ça qu'au cours du baptême, au début du baptême, on fait des exorcismes, des prières d'exorcisme, il y en a deux, justement pour ordonner au démon de quitter cet homme. Exi abeo. Sors de cet homme, sors de cette âme. Alors, si le prêtre au baptême, avant de baptiser l'enfant, dit au futur baptisé, donne l'ordre au démon qui est à côté du futur baptisé, sors de cette âme, ça veut dire que le démon est dans cette âme. Si le démon n'était pas dans l'âme d'un enfant, d'un petit bébé avant son baptême, il n'y a pas besoin de faire des exorcismes. Ça, quand j'explique ça aux parents, il y en a qui se heurtent, qui sont heurtés profondément. Comment vous dites que mon bébé appartient au démon, mon bébé tout innocent est tout innocent, mais le démon est dans son âme, parce qu'il n'est pas baptisé. Et ce moment du baptême, après les exorcismes, donc, après avoir donné l'ordre, sort de cette âme, le prêtre va verser l'eau baptismale sur le fond du bébé, en disant, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le démon est expulsé, littéralement. Et notre Seigneur Jésus-Christ vient, par sa charité, habiter dans cette âme. Et l'enfant va rester sans la présence du démon pendant un certain nombre d'années, jusqu'à arriver à l'âge de raison, malheureusement, où là, il risque de reperdre de réouvrir la porte de son âme au démon par le premier péché mortel, hélas. Donc il faut libérer le monde par sa mort du péché et du démon. Donc, deuxièmement, il faut chasser le démon des cœurs des fidèles et des temples, afin que le vrai Dieu fût maintenant adoré. Donc, dans le paganisme, on adorait le démon, et il faut maintenant adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a un combat terrible entre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut tout placer au centré sur Dieu, et le règne social du démon qui veut tout placer, tout centrer sur l'homme, avant tout centrer sur le démon lui-même. Troisièmement, il faut priver le démon de son pouvoir. Pouvoir qu'il exerçait en tentant les hommes, en leur donnant sa grâce toute puissante par laquelle ils pourront résister aux tentations. Donc il faut faire sortir les hommes du camp du démon, couper les liens qui attachaient cette âme au démon, pour que l'âme puisse littéralement changer de camp, passer du camp du démon au camp de notre Seigneur Jésus-Christ, et s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ par les liens de la charité, et par les liens de la confession, de la communion fréquente. Et enfin, un quatrième point, purger. Il faut, Christ explique ce qu'il veut faire, il veut non seulement libérer le monde, chasser le démon, priver le démon de son pouvoir, mais purger les cœurs des hommes, des démons, les renvoyer en enfer. C'est-à-dire purifier. Je sais pas si purger est un verbe français. Je ne sais pas si c'est français ce verbe purger. Oui, on purge. Je crois que c'est français. Je crois que je peux le laisser comme ça. Purifier ou purger. Vous pouvez demander aux gens plus doués que moi. Purifier les cœurs des hommes, des démons et les renvoyer en enfer. Donc, par le baptême, on renvoie le démon en enfer. Malheureusement, il va. Parce que le démon quitte une âme, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il essaie de rentrer dans cette âme, mais s'il n'arrive pas à pénétrer dans cette âme, parce qu'elle est bien gardée maintenant, il va chercher sept démons pires que lui, et il essaie de rentrer dans l'âme. Et s'il arrive à repénétrer dans cette âme avec ces sept démons pires que lui, ben, la situation de cette âme va devenir pire qu'auparavant. D'accord? Donc rappelez-vous bien ce rôle du Christ, libérer le monde, chasser le démon du monde, priver le démon de son pouvoir et purifier les cœurs des hommes et des démons pour les renvoyer en enfer. Ô Seigneur, vous avez attiré toutes choses à vous. Quand le voile du temple fut déchiré et le saint des saints ôté de leur sacerdoce indigne, la figure a laissé la place à la vérité, la prophétie en manifestation et la loi en évangile. Une belle phrase, une belle prière. Je ne sais pas de qui est cette prière. Je n'ai pas toujours noté les auteurs de tous ces textes que j'ai trouvés chez saint Thomas d'Aquin, notamment, parce que ça m'aurait demandé beaucoup trop de travail. Encore une fois, rien ne vous empêche d'aller lire par vous-même, essayer de vous procurer la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin. Vous verrez tous les commentaires de saint Thomas d'Aquin sur chacun de ces versets des évangiles. Ainsi, tout ce qui était caché dans le temple juif, sous les ombres et les signes extérieurs, peut maintenant être donné devant les yeux de tous dans toute sa force sacramentelle. Il y a maintenant un ordre bien plus illustre que celui des Lévites, une dignité plus élevée que celle des anciens, une onction des prêtres plus parfaite. Parce qu'on est passé de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le testament des figures, au Nouveau Testament, le testament de la réalité. Autre belle phrase des pères, la croix est la source de toutes les bénédictions, de toute grâce, et par elle les fidèles obtiendront la force à partir de la faiblesse, la gloire de la honte, la vie de la mort. Aimez cette croix. Par le signal de la, le signe de cette Sainte Croix, de nos ennemis, délivrez-nous, Seigneur, disent les Espagnols. Mais c'est un bel exorcisme. Quand vous êtes des tentations, des moments difficiles, par le signe de la Sainte Croix, de mes ennemis, délivrez-moi, Seigneur. En fait, le signe de croix, c'est vraiment un des meilleurs moyens de se protéger des tentations. Même vous êtes dans la rue et vous avez des tentations de regarder quelque chose qu'il ne faut pas regarder, de regarder une jeune fille qui est habillée comme une prostituée. Vous êtes tenté de la regarder, de mes ennemis, du démon, par le signe de cette Sainte Croix, Seigneur, délivrez-moi. Et puis on fait le signe de croix. Oui. N'ayez pas peur de faire le signe de croix, même en public, surtout dans les moments difficiles, les moments de tentation. Alors, commentaire maintenant sur ce verset 32. Je vous l'ai expliqué, c'est un des plus importants versets d'Évangile. Quand j'aurai été élevé de terre, je tirerai tout à moi. En bas de la page 15. Quand le Seigneur fut exalté sur la croix entre le ciel et la terre, il attirera toutes choses à lui. Bon. Ici, les pères expliquent. D'abord, il va réconcilier le ciel et la terre, les anges et les gentils et les juifs, les hommes à Dieu, car il est notre paix. Notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui rassemble les âmes qui sont divisées par le péché. Par le péché. Eh bien, le Dieu, faisant sauter le péché par sa mort, va rassembler les âmes que le démon ne cherche qu'à diviser. Deuxième chose, notre Seigneur attirera toutes les nations à lui, à la foi, à l'amour du Christ. Il les attirera de la terre à la croix, à la pénitence, à la mortification continuelle et au martyre, puis de la croix au ciel. Il les attirera par les mérites et le prix de son sang, par son exemple et son sang, car si le Christ mourut pour nous sur la croix, qui ne l'aimera en retour? Qui ne dirait pas comme Saint Ignace au milieu des lions, Saint Ignace d'Antioche: mon amour est crucifié, je fus blessé dans la maison de mes amis. Donc, cette réconciliation va permettre à l'amour du Christ d'exploser dans les âmes. Mais cela va se faire par notre attraction vers la croix, vers la pénitence, la mortification, le martyre, si le bon Dieu le demande. Donc, il faut passer par cette voie purgative. La voie purgative, c'est quoi? C'est quoi? C'est mettre la croix de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours. C'est ça, la croix. Croix, c'est pas simplement une façon de parler, c'est une la croix, c'est véritablement d'accepter toutes les souffrances que le bon Dieu permet que nous ayons, que ce soit les souffrances physiques ou les souffrances intellectuelles, les souffrances morales. On a tous des tentations, hein. On peut pas aller au ciel sans tentation, c'est absolument impossible. Dernier point, en bas de la page 15, par ce sacrifice, sacrifice de sa passion, donc qui arrive, Dieu se fit propitiation envers les hommes. Le soleil et les cieux, pardon, furent troublés, comme s'ils pleuraient la mort de leur créateur. Leurs rayons se retirèrent de la terre, l'air s'obscurcit, la terre tout entière trembla et se convulsa. Les rochers se fendirent et les tombeaux s'ouvrirent pour que les morts, comme les vivants, pleurent la mort du Christ. Toutes les créatures regardèrent le Christ crucifié et s'offrirent à combattre en son nom contre les assassins et les dispersés. Donc la passion, si vous voulez, est comme une épée qui va séparer le monde en deux. Ceux qui veulent adorer notre Seigneur Jésus-Christ et ceux qui le refusent. Donc il faut souvent méditer cette phrase. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Il faut contempler notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, surtout dans les moments difficiles, moments de tentation, tentation surtout, tentation contre la foi, l'espérance, la charité, la pureté. Mettez-vous devant votre crucifix, voyez notre Seigneur Jésus-Christ avec les bras étendus, les pieds crucifiés, et qui ouvre son cœur, justement, pour que nous puissions trouver refuge dans ce cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mystère de la croix est le plus grand mystère du christianisme. On se sauve par la croix. Pour cela qu'il est tellement difficile dans le monde moderne de prêcher la croix, parce que la devise du monde moderne, c'est la suivante: jamais souffrir, jamais mourir. On ne souffre pas, on ne meurt pas. On vit dans le plaisir, dans la joie, dans la joie naturelle, la joie d'ici-bas, la joie physique. On cherche qu'une seule chose, c'est à jouir de la vie. L'esprit du monde moderne, c'est un esprit de jouissance. L'esprit de l'Église catholique, c'est un esprit de pénitence. On ne peut pas être en même temps dans la jouissance, dans la pénitence, c'est absolument impossible. Voilà, ben je vais arrêter là, parce que ça fait déjà plus d'une heure que je vous parle. Donc on en arrive au verset, est-ce que j'en suis, au verset 34. Verset 34 du chapitre 12 de Saint Jean. Donc on, je pense que la prochaine fois, je devrais être capable, si Dieu veut, de terminer le chapitre 12 avant de commencer ces grands chapitres qui précèdent immédiatement les versets chapitre 13, 14, 15, 16 et 17 qui précèdent immédiatement la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.